Chapitre 4. Ce n'était pas sans une intention secrète que le rusé Clézide avait accueilli Joseph Vadien avec tant d'empressement. Il pensait bien que Cécile descendrait souvent au hameau pour voir son père et que, tout naturellement, Étienne se trouverait parfois sur son chemin. Le garçon était fier, un peu trop réservé au gré du tisserand. Il ne voulait point s'imposer à Joyeuse, évitant plutôt qu'il ne cherchait les occasions de la rencontrer. Si le père ne prenait pas sa cause en main, ça ne marcherait jamais. « De mon temps, grommelait Clézide, les jeunes savaient bien mener tout seuls leurs affaires d'amour. Il fallait plutôt les retenir, parbleu. Mais depuis 48, tout a dégringolé. Quand la génération qui a encore vu le roi n'y sera plus, du diantre si je sais comment le monde tournera. » Cependant, la jeune fille, retenue auprès de son grand-père, venait rarement au village. Joseph Vadien, après son travail, montait chaque soir dans la direction de la maisonnette sans s'en approcher toutefois. Cécile descendait en courant pour échanger quelques mots avec son père. « Vous allez bien ? » demanda-t-elle avec sollicitude. « Voici vos barres accommodées. J'ai travaillé pour vous tout l'après-midi. » « Et le grand-père, que dit-il ? » « Pas grand-chose. Il se lève maintenant, mais il est sombre. C'est à vous qu'il pense, bien sûr. « N'ayez crainte, mon père, vous verrez que son cœur finira par prendre le dessus. Mais il faut avoir patience. » Joseph secoua la tête. « Comme il tarde, murmura-t-il, comme il tarde. Quand j'ai traversé l'océan pour venir ici chercher mon pardon, c'était sur un voilier où j'étais matelot. Il me semblait que le vent ne soufflerait jamais assez fort pour me ramener en Europe. » Le vent et les voiles ont pourtant fait leur devoir, et la mer m'a laissé passer, mais pourquoi suis-je revenu ici si rien ne peut toucher le grand-père ? Cécile, est-ce qu'il est vraiment trop tard pour me réconcilier avec mes proches, pour recommencer une nouvelle vie ? Il n'est jamais trop tard pour cela. Ne vous découragez pas, mon père. Elle faisait de son mieux, la pauvre enfant, pour soutenir l'espoir de Joseph aussi bien que le sien. Mais de jour en jour, cet espoir faiblissait. Le père Félix reprenait peu à peu ses occupations ordinaires, son ton d'autrefois lorsqu'il parlait à Cécile. On eût pu croire à la lutte finie et l'issue irrévocablement fixée. Mais c'était pendant la nuit que son esprit, volontairement distrait par les travaux du jour, revenait à l'angoissante question et reprenait chacune de ses faces. Les vieillards dorment peu. Tandis que le coucou de la cuisine sonnait les heures, à grand bruit de chaînes et de rouages, le père Félix épiait les approches du matin qui mettraient en fuite ses tristes compagnons de chevet, la haine et le souvenir. Quand l'aube blanchissait, il trouvait un peu de sommeil et, par un travail assidu, chassait durant le jour les pensées troublantes. La victoire demeurerait-elle à l'esprit de vengeance et cette belle vie, presque parvenue à son terme, faillirait-elle à remporter la plus noble couronne ? Cécile descendait le sentier rapide et glissant, un petit panier couvert à son bras. Elle avait reprisé les blouses de son père et les lui portait, avec une galette cuite le matin même. C'était par la permission du grand-père qu'elle avait rempli son panier. Il la lui avait accordée d'un ton radouci et elle s'était mise en route toute joyeuse. Avec l'heureuse élasticité de sa nature, elle se redressait déjà sous ce rayon d'espoir. Elle voyait les difficultés aplanies et la paix rentrant dans leur humble logis, comme ces colombes blanches qui viennent au printemps se poser sur les toits rustiques. Le soleil, qui brillait depuis 2 jours, avait amolli la neige, mais le gel étant survenu tout à coup, une couche luisante de verglas couvrait les chemins. Comme il faisait déjà sombre, il fallait prendre garde à chacun de ses pas et Cécile s'avançait avec prudence, les yeux baissés, quand un grand murmure de voix lui fit lever la tête. Au pied du sentier, sur la route qui conduit aux premières maisons du hameau, se groupait une masse confuse de gens, apparemment fort agités. « Est-ce un malheur ? » se demanda-t-elle. On l'avait aperçue et le silence se fit tout à coup dans le groupe qu'elle aborda avec inquiétude. « Qu'avez-vous là ? » s'écria-t-elle, croyant distinguer une civière. mais tous ces hommes se serrèrent, épaule contre épaule, et elle ne put voir ce qu'ils cachaient derrière eux. Par ces temps de neige et d'affreux chemins, commença l'un d'eux, un malheur est vite arrivé. C'était le tisserand. Quel autre eut pris la parole ? Le ver de glas vous joue de ses tours. On glisse à un mauvais endroit, on est flambé. Pour vous dire la chose avec ménagement. Il s'arrêta. C'était l'idée qu'il avait du ménagement. Cécile restait muette, comprenant vaguement qu'un malheur la frappait. Toute pâle, elle avait laissé glisser son petit panier sur la neige et cherchait instinctivement un soutien. « Parlez donc, père, vous voyez bien que vous la faites mourir !» dit une voix forte. Et Étienne Leroux, s'avançant, appuya la jeune fille contre sa vigoureuse épaule. « Eh bien, puisqu'il le faut, tu sauras, Cécile, que nous avons trouvé ce soir un homme dans le ruisseau, tout au fond de la combe. Il avait sans doute glissé au bord du pont. La glace a cassé sous lui. L'eau n'était pas profonde tout de même, mais à le voir, on dirait qu'il s'est noyé. » Cécile écarta brusquement les hommes qui entouraient la civière et vit là, étendu, ruisselant d'eau glacée, les yeux clos, les dents serrées et la mort sur le visage, celui que son grand-père avait maudit. Elle ne chancela pas, mais ferma les yeux un instant. « Venez !» dit-elle ensuite. Et elle remonta le sentier d'un pas rapide, se retournant pour voir si on la suivait assez vite. Son grand-père était dans la cour. Quand il aperçut le triste cortège, ses genoux fléchirent, il se retint d'une main crispée au linteau de la porte. La civière franchit le seuil. C'est ainsi que Joseph Vadien entra pour la première fois dans la maison de son beau-père. « Mettez-le près du foyer, » dit Cécile. « Il n'est pas mort. » Sa tranquille assurance étonnait tous ses hommes et les effrayait presque. Elle s'agenouilla sur les dalles, prit la main de son père et lui appuya son oreille contre la poitrine. « Je vous dis qu'il n'est pas mort, » s'écria-t-elle. « Courez chercher un docteur ou monsieur le curé des Grâces qui s'entend à soigner les blessés. Peut-être le trouverez-vous en bas. C'est son jour de visite au nid du fol. » Puis elle demanda qu'on ôtât au malade ses vêtements trempés et qu'on le portât sur le lit du grand-père, tandis qu'elle ferait chauffer des linges. On lui obéit. Le vieillard la suivait comme en rêve, écrasé par ce coup subit. C'est une tuile sur la tête, n'est-ce pas ? Dit Clésie en le prenant à l'écart. Mais le malheur n'avertit pas, il vous tombe dessus sans crier gare. Ce matin, Joseph était robuste comme un chêne. Ce soir, s'il n'est pas mort, il n'en vaut guère mieux. Vous savez comment c'est arrivé ? Non. Il a glissé sur le petit pont et est tombé dans l'eau par pur accident, à moins que... Vous comprenez, il était bien dégoûté de la vie. Le vieillard le regardait atterré. Tout à coup, il se prit la tête à deux mains et sortit précipitamment. La cour était déserte. Il s'appuya contre le mur et resta longtemps immobile. Pourquoi essayer de décrire l'inexprimable souffrance et la poignante terreur qui nous prosterne en face de l'irréparable ? Le cœur a ses abîmes où l'on ne saurait pénétrer. Le sentiment de sa terrible responsabilité s'empara du vieillard et le jeta par terre à genoux. Il offrit sa vie en rançon pour celle de Joseph. Le pardon qu'il avait refusé, il l'implora pour lui-même. Quand le curé, qu'on avait heureusement trouvé chez une voisine, arriva en toute hâte, il aperçut le père Félix, tête nue, encore agenouillé et dans un état d'accablement si complet que le prêtre en fut alarmé. « Allons, prenez courage, » dit-il affectueusement, « l'accident peut n'être pas fatal. Comme ce brave garçon me l'a raconté en route, il est impossible que Joseph se soit noyé dans une eau si peu profonde. Il a peut-être reçu un coup qui l'a étourdi. » Mais le père Félix n'osait espérer, tant il se sentait digne de châtiment. À peine entré, le curé s'empressa de congédier les gens qui remplissaient la cuisine. « Mes bons amis, leur dit-il, vous comprenez que dans un cas pareil, on a besoin d'avoir ses coudées franches. Faites-moi donc l'amitié de vous en aller au plus vite, et si vous tenez à avoir des nouvelles, je vous en donnerai en redescendant. » Avant de sortir, Étienne Leroux s'approcha de Cécile. S'il faut veiller, lui dit-il, promets-moi de me faire chercher le premier. Je veux bien, répondit-elle d'un ton distrait. Elle était si bouleversée, malgré son calme apparent, qu'elle ne distinguait pas nettement ceux qui lui parlaient. Étienne Leroux s'en alla presque joyeux. Les amoureux sont égoïstes et il ne pouvait s'empêcher de voir dans le malheur dont Cécile était frappée un coup du sort qui la rapprocherait de lui. Cependant, Joseph, malgré les soins qu'on lui prodiguait, n'avait pas fait un mouvement. Il respirait, c'était tout. En l'examinant minutieusement, le curé finit par découvrir à la tempe une meurtrissure déjà bleuâtre. « Regardez, dit-il, voilà ce qui l'a étourdi. Mettez-lui de la neige sur le front toute la nuit pour empêcher l'inflammation cérébrale. Avec cela, beaucoup de calme et de silence, et lorsqu'il ouvrira les yeux, éloignez de lui toute pensée, tout souvenir qui serait de nature à l'agiter. Je reviendrai demain. » Quelle longue nuit! Le père Félix, assis dans l'ombre, de façon à ce que Joseph ne pût l'apercevoir quand il reviendrait à lui, ne détourna pas un instant les yeux de cette figure pâle sur laquelle il épiait, avec quelle angoisse et quelle prière, le retour de la vie. Cécile allait et venait sans bruit, renouvelant les compresses de neige et prenant de temps en temps la main inerte de son père pour s'assurer que le pouls battait encore. Le vieillard lui faisait grand-peine, car elle devinait bien ses pensées. Mais dans la terrible incertitude où elle se débattait elle-même, que pouvait-elle dire pour le rassurer ? « Il a remué !» fit-elle tout à coup. La main de Joseph s'agitait, en effet, comme si elle cherchait quelque chose. Cécile la prit doucement entre les siennes, puis posa ses lèvres avec une effusion de reconnaissance, car elle voyait une promesse dans ce simple signe de vie. Le grand-père s'était levé. Des larmes roulaient sur ses joues. « Joseph, murmura-t-il en s'approchant du lit, que Dieu me pardonne comme je te pardonne. » Était-ce le reflet mouvant de la lampe, ou bien les lèvres violettes du malade s'étaient-elles vraiment entrouvertes ? Cécile regarda son grand-père sans rien dire, puis, inclinant sa tête sur l'épaule du vieillard, elle laissa couler ses larmes. Quand, le matin suivant, le bon curé reparut, son malade avait les yeux ouverts. « Ne parlez pas, ne parlez pas !» dit le curé en lui prenant la main. « Dormez si vous pouvez, et surtout ne pensez à rien !» Cette recommandation était presque superflue, car la faiblesse de Joseph était extrême. « Il fournira une nouvelle étape, » dit le curé en s'éloignant. « Allons, vivez en paix, bonnes gens !» « Monsieur le curé, murmura le père Félix, quand j'irai vous parler en confession à la Noël, vous saurez alors quel cœur impitoyable j'ai gardé longtemps. Je suis vieux, mais je regimbais devant mon devoir et j'ai dû être frappé de la verge comme un enfant. » « Nous ne sommes tous que des enfants en sagesse, » dit le curé. Puis il s'éloigna, songeant à ce qu'il venait d'entendre. Dans l'après-midi, Clézide Leroux gravit en hâte le sentier qui conduisait à la maison du grand-père. Il voulait avoir les premières nouvelles pour les reporter au hameau. Ce fut son nez qui entra le premier, avec circonspection, dans la cuisine, puis son menton pointu et enfin le reste de sa personne. « Chut !» dit Cécile en mettant un doigt sur ses lèvres. Aussitôt, afin de montrer sa sympathie et les égards qu'il avait pour l'affliction de la famille, il ôta ses gros sabots et s'avança discrètement sur la pointe de ses chaussettes de laine. « Ça va mieux ? » demanda-t-il à voix basse. « Oui, il parle un peu. Grand-père est près de lui. » En effet, un quart d'heure auparavant, le malade qui, dans le cours de la matinée, avait fréquemment arrêté ses yeux sur le père Félix, fit signe à Cécile de sortir. « Va, » murmura-t-il, « je veux lui parler. » Le vieillard s'assit au chevet de Joseph. Il eût voulu dire quelque chose, mais l'émotion le serrait à la gorge. « Quand je voyais encore tout noir et que mes idées étaient embrouillées, » commença Joseph d'une voix lente. « Il me sembla que j'entendais quelqu'un parler à côté de moi et dire « Que Dieu me pardonne comme je te pardonne. » « Tu ne t'es pas trompé, Joseph, et c'est beaucoup plus tôt que j'aurais dû te le dire. Écoute, laisse-moi te faire une question, car l'inquiétude me ronge et je ne saurais la supporter davantage. Te rappelles-tu comment tu es tombé dans l'eau ?
Le pied m'a manqué au bord du pont. J'ai glissé, puis j'ai senti un grand coup à la tête, sans doute contre l'arche de pierre. Après, j'ai tout oublié.
Ainsi, dit le père Félix d'une voix tremblante, tu n'as pas cherché le malheur, Joseph.
Il secoua la tête et sourit faiblement.
J'avais ma fille, murmura-t-il, déjà fatigué de parler. Le vieillard lui prit la main sans rien dire, et ces deux hommes se réconcilièrent ainsi. Maintenant, les douces cloches de Noël pouvaient se mettre à chanter, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes.
Oui, il va mieux. Monsieur le curé pense qu'il se remettra vite, car il est robuste, dit Cécile en s'asseyant à côté de son visiteur. Quelle délivrance après les angoisses de la nuit passée!
Et les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. Elle savait que la paix était entrée chez eux par ce sombre chemin.
Bon, bon, fit Clésine en se frottant les genoux.
Après tout ce tintouin, ils auront le loisir de songer à mon affaire, pensa-t-il. Étienne s'est bien montré, il faut le reconnaître. Empressé juste à point, rendant de petits services, c'est lui qui est allé quérir monsieur le curé. S'il pouvait continuer sur ce pied-là, il faut que j'en coule un mot à Cécile. Mais en cet instant, un bruit de grelot et le piaffement d'un cheval se firent entendre dans la cour. Joyeuse courut à la porte.
« Oh, Madame Renaud !» s'écria-t-elle. « Vous avez su que nous étions dans la peine ?»
Madame Renaud mit méthodiquement pied à terre, plia la couverture qui lui avait enveloppé les genoux, prit dans sa grande poche un morceau de sucre qu'elle donna au cheval, puis embrassa maternellement Cécile.
Nous avons eu la nouvelle par Étienne Leroux, dit-elle. Le brave garçon a passé la montagne ce matin, exprès pour nous avertir.
Clézide était venu sur le seuil pour reconnaître les arrivants.
Tiens, pensa-t-il, c'est donc là qu'Étienne allait de si bonne heure. Voilà ce que j'appelle faire sa cour de loin. Mais il y a des filles avec qui ça réussit mieux. Il mène sa barque rondement, notre fils.
Juste était descendu du siège et s'approcha de Cécile.
« Pauvre joyeuse, dit-il, vous avez bien des tribulations depuis quelque temps. »«
Nous aurions dû venir plus tôt, interrompit vivement Madame Justine, nous enquérir de la santé du grand-père. Mais le lendemain de votre départ, Juste nous communiqua des projets qu'il a, de terribles projets qui m'ont bien tourmenté, et pendant plusieurs jours, je n'ai pensé qu'à mes soucis. »
Joyeuse leva les yeux d'un air interrogateur et tout d'un coup, le cœur lui battit sans qu'elle sût pourquoi.
« Il veut partir, dit tristement Madame Renaud, pour un pays où l'on meurt des fièvres. C'est pour cela que nous l'avons élevé et éduqué de notre mieux. »«
Partir ?» répéta Joyeuse.
Cette idée ne lui était jamais venue. Elle avait toujours cru qu'une fois ses études finies, il viendrait s'établir dans son village natal.
Clézide l'observait du coin de l'œil.
Qu'est-ce que ça lui fait donc, grommela-t-il, que ce grand-là s'en aille ou non?
La voilà pâle.
Mais elle se remet. Elle a dû vouloir cette fillette, une crâne femme que ça fera pour mon fils.
Entrez donc, dit Cécile, je vous tiens là au froid. Le grand-père va venir.
Elle entr'ouvrit une porte et appela le vieillard à voix basse. Quand il parut, Madame Renaud le trouva bien changé. Les souffrances physiques et morales des derniers temps avaient courbé sa taille, creusé des rides plus nombreuses sur son front. Mais un air de sérénité, d'apaisement, régnait désormais sur son visage. Tandis que Cécile mettait la bouilloire sur le feu et préparait le goûter pour ses hôtes, le père Félix leur racontait en détail le triste accident de la veille.
« Mais le bien sortira du mal après tout, » conclut Madame Renaud.
« Ah, père Félix, qu'il en soit de même pour nous et pour mon juste. Tout me ramène à mes soucis, voyez-vous. Je crois m'apitoyer sur ceux des autres et c'est au mien que je pense. Vous voilà tous en paix. Pour nous, une nouvelle inquiétude commence. Ainsi, les tracas font leur ronde.
Je suppose qu'il faut ça pour que le monde continue à tourner. »
Peut-être bien, dit le père Félix, et voilà ce qui me chagrine. On n'est jamais heureux tous ensemble. Mais il vaut mieux voir la chose par l'autre bout, madame Renaud. Si le chagrin fait sa ronde, la consolation se met en route après lui. Elle n'oubliera pas votre maison, n'ayez crainte.
Quand une histoire finit, une autre commence, murmura le tisserand à part soi. Pourtant qu'à Joseph, l'affaire est en règle. Mais je vois venir des complications par rapport à Cécile. Étienne aura du mal s'il la veut. De mon temps, pardi, on ne faisait pas tant de façons. On se voyait, on s'accordait. Me prends-tu? Si tu veux. C'est ainsi que j'ai fait avec ma vieille. Mais le monde est détraqué depuis 48.
Le tisserand disait bien que lorsqu'une histoire finit, une autre commence. Celle du père Félix s'arrête ici, mais si nos lecteurs veulent nous accompagner encore au nid du fol, nous leur dirons ce qu'il advint de joyeuse.